VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Bion pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 17 mai 2023. En Guinée, la junte réquisitionne l'armée face aux manifestations et menace d'appliquer la loi antiterroriste. Au Soudan, les combats font rage à Khartoum, mais certains habitants restés dans la capitale font face à des conditions de vie infernales.
On est obligé à enterrer des morts dans les cours des maisons familiales.
Le témoignage sur les difficultés du quotidien des habitants de Khartoum à suivre dans la partie magazine. En France, l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme pour corruption. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden se dit confiant dans l'obtention d'un accord sur la dette. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Jour de manifestation aujourd'hui en Guinée, le gouvernement déclare avoir fait appel à l'armée pour assurer la sécurité des Guinéens et de leurs biens. Après la mobilisation de ce mercredi, de nouvelles manifestations sont programmées à Conakry demain par les forces vives de Guinée, des acteurs sociaux politiques qui réclament un dialogue inclusif pour un retour à l'ordre constitutionnel. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Les autorités guinéennes ont pris l'initiative de réquisitionner l'armée pour la deuxième fois depuis la prise du pouvoir par les militaires pour maintenir l'ordre pendant les manifestations de rue. Pour ces citoyens, cette mesure vise simplement à intimider.
Le dispositif sécuritaire, ce que je vois là-bas, donc vraiment c'est déplorable parce que nous ne sommes pas en guerre. On envoie des gens avec des chars de combat et des trucs là, c'est pas normal. Normalement, on ne devrait pas passer par ça. Parce que ça, c'est l'intimidation. Alors que tant qu'ils soient là-bas, peut-être ceux qui manifestent là, ils ne vont pas sortir. Mais dès qu'ils quittent, peut-être ils vont sortir.
C'est le maire de la commune de Ratoma qui a signé la réquisition, a affirmé mardi le ministre guinéen de l'administration du territoire devant les ambassadeurs et représentants d'institutions accréditées en Guinée. Ratoma, c'est là où 7 personnes ont trouvé la mort la semaine dernière. Fafa Biramane, président du conseil de quartier Wanindara 3, était lui aussi sur le terrain pour sensibiliser les jeunes.
J'ai fait le tour de mes 4 secteurs. Depuis le matin, je suis sur pied. Je suis passé même dans les lieux où on vend la drogue. J'ai dit consommer, dormez ici. Mais n'allez pas sur la route pour barrer. Celui qui va barrer là-bas aujourd'hui, il va rencontrer leur résistance qu'il n'oubliera jamais dans sa vie.
Les chefs religieux qui ont initié une médiation entre le gouvernement et les forces vives n'ont pas réussi à éviter de nouvelles manifestations, des manifestations qualifiées de guérilla urbaine par le ministre guinéen de l'administration du territoire. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le Tchad a affirmé aujourd'hui que ses soldats ont tué récemment 10 de bandits en Centrafrique dans une opération conjointe inédite avec des milliers de militaires de ce pays dans le cadre d'incessants conflits meurtriers entre éleveurs et cultivateurs à la frontière. N'Djamena précise qu'elle a été menée en représailles au meurtre de 17 villageois le 8 mai au Tchad par des hommes armés venus de Centrafrique. Cette action militaire commune n'a pas été confirmée par Bangui qui se contente d'évoquer une équipe de concertation entre militaires des deux pays. 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Soudan, rapporte aujourd'hui l'ONU. Après plus d'un mois d'une guerre pour le pouvoir entre militaires et paramilitaires, que les efforts diplomatiques internationaux ne font pas plier. Les détails avec Dani Talani.
Les combats ont déjà fait près d'un millier de morts, environ 750 000 déplacés et 220 000 réfugiés et ont fait trembler de nouveau plusieurs quartiers de Khartoum. L'ONU a revu à la hausse ses appels de fonds, disant qu'elle a besoin de 2,6 milliards de dollars pour assurer son aide humanitaire sur le sol soudanais. Plus d'un habitant sur 2 dépend de l'aide. À cela s'ajoute près d'un demi-milliard de dollars pour aider les réfugiés dans les pays voisins. Ces réfugiés seront plus d'un million cette année, assure l'ONU. Après la guerre lancée le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, les vivres se font de plus en plus rares. L'industrie agroalimentaire, déjà à genoux après 20 ans d'embargo, est bombardée. Les négociations pour une trêve humanitaire sont toujours dans l'impasse à Jeddah, en Arabie Saoudite.
En Éthiopie, les rebelles de l'armée de libération Oromo ont accusé le gouvernement fédéral éthiopien d'avoir lancé une offensive contraire à la désescalade espérée après de premiers pourparlers de paix infructueux. Gouvernement éthiopien et rebelles ont entamé le 25 avril à Zanzibar et le semi-autonome de Tanzanie des discussions qualifiées par la rébellion de préliminaires à des négociations plus approfondies. Après la fin de ce premier cycle de discussions conclu le 3 mai sans avancée, nous avons vu le régime lancer une offensive tous azimuts, ce qui est contraire à l'esprit de désescalade que nous espérions, affirmer Oda Tarbi, porte-parole de l'OLA.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La mission de paix de 6 dirigeants africains en Ukraine et en Russie, évoquée mardi par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, devrait se concrétiser dès début juin. Les dates restent à confirmer, mais début juin, les 6 chefs d'État feront la navette entre les deux capitales afin de faciliter les pourparlers de paix, a déclaré Zané Dangor, le directeur général du ministère sud-africain des Affaires étrangères. Cyril Ramaphosa a annoncé hier que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont accepté de recevoir la mission et les chefs d'État africains de 6 pays, Afrique du Sud, Sénégal, Zambie, Congo, Ouganda et Égypte, dans leurs capitales respectives. Un an de prison ferme pour Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, est condamné en appel pour corruption et trafic d'influence dans les affaires dites des écoutes. Son avocat a annoncé son intention de former un pouvoir en cassation. Alexandrine Ollognon.
Nicolas Sarkozy écope de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 3 ans de privation de ses droits civiques. S'il échoue en cassation, il n'ira pas derrière les barreaux, mais devra porter un bracelet électronique. Monsieur Sarkozy devient le premier ex-président français condamné à de la prison ferme. L'ancien chef d'État a déjà été condamné à 1 an de prison ferme en septembre 2021 pour financement illégal de sa campagne en 2012. Le procès en appel dans cette affaire dite Big Malion est prévu à l'automne. À cette litanie, la menace de nouveaux procès retentissants, encore un, vient de s'ajouter. Le parquet a requis jeudi son renvoi en correctionnel dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. « Je suis habitué à subir ce harcèlement depuis 10 ans », a déclaré celui que les Français surnomment Sarko et dont la présidence fut marquée par une ligne dure sur la sécurité et l'immigration.
Lors d'une brève intervention à la Maison Blanche avant de partir pour le Japon, où il va participer à un sommet du G7, Joe Biden a précisé que les responsables du Congrès, avec qui il a eu une réunion mardi, étaient d'accord pour éviter un défaut de paiement des États-Unis. Les précisions avec Nathalie Barge.
Les dirigeants ont tous convenu que nous ne ferions pas défaut, a déclaré Joe Biden lors d'une brève allocution à la Maison Blanche, peu avant son départ pour la réunion des dirigeants du G7 au Japon. Monsieur Biden et des chefs de file du Congrès, dont le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, ont tenu des discussions pour tenter de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette des États-Unis et permettre ainsi au pays de acquitté de ses obligations. Hier, M. McCarthy a déclaré qu'il restait beaucoup à faire pour sortir de l'impasse. Les républicains continuent d'exiger d'importantes réductions des dépenses, ignorant la demande des démocrates en faveur d'un relèvement de la limite d'emprunt sans condition. M. Biden a confirmé qu'il va écourter une tournée plus large dans la région Asie-Pacifique, qui comprenait une rencontre avec le Premier ministre australien et une étape en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qu'il prévoit de retourner à Washington dimanche pour les négociations finales sur le plafond de la dette. Il a rappelé que le défaut de paiement n'est pas une option. Il serait catastrophique pour l'économie et le peuple américain de ne pas payer nos factures, a-t-il déclaré.
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheit, a officiellement salué aujourd'hui la réintégration de la Syrie au sein du bloc dont elle avait été suspendue en 2011. L'homme fort de Damas va savourer vendredi son retour parmi ses pairs lors du 32e sommet de la Ligue arabe à Jeddah, où il va retrouver les dirigeants de pays comme l'Arabie saoudite ou le Qatar qui ont soutenu pendant des années la rébellion syrienne. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouhamadou Mfa. La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, a effectué mardi une offre de reprise de liquidité d'un montant de 100 milliards de francs CFA auprès des établissements de crédit de la sous-région. Selon investirocameroun.com, après 4 hausses successives de ses taux directeurs, la BEAC a coupé les vannes aux banques le 21 février en suspendant ses opérations hebdomadaires d'injection de liquidité, l'objectif étant de lutter contre l'inflation. En Tunisie, le taux de chômage a enregistré une hausse au premier trimestre pour se situer à 16,1% contre 15,2% au trimestre antérieur, a révélé l'Institut national de la statistique. La Tunisie subit une hémorragie financière et de graves difficultés économiques depuis plusieurs années. Tunis espère obtenir bientôt un prêt de 1,9 milliard de dollars du FMI pour sa relance. Les procédures d'exportation d'or seront désormais effectuées au niveau d'un guichet unique à Madagascar, a déclaré lundi à la presse le ministre malgache des Mines. Cette mesure a pour objectif de limiter les déplacements des opérateurs dans la préparation des dossiers et de réduire le risque de tentation de remplacement des produits, a ajouté le ministre.
Vous suivez VO Afrique, place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
L'Inter Milan ramène l'Italie en finale de Ligue des Champions.
Dernier club italien à avoir conquis la Ligue des Champions en 2010, l'Inter Milan a de nouveau battu l'AS Milan 1-0 après le 2-0 de l'aller pour amener en finale le pays du Calcio. L'Inter Milan sera évidemment l'outsider à Istanbul. Le 10 juin, contre l'inoxydable Real Madrid au 14, ça crée le record où l'affamé Manchester City en quête d'une première couronne. Les Nerazzurri essaieront d'y faire valoir leur caractère qui a suffi contre l'AS Milan. Le capitaine Lautaro Martinez peut rêver de soulever la Ligue des Champions quelques mois après avoir conquis la Coupe du Monde avec l'Argentine.
Real Madrid contre Manchester City, ça en pagaille et duel à tous les étages.
La demi-finale retour de Ligue des Champions de ce mercredi entre Manchester City et le Real Madrid, le match de l'année selon la presse, mettra en scène une flopée de stars et des duels à tous les étages, comme à l'aller, un but partout pour une place en finale.
Ligue Europa, l'Italie rêve d'une autre finale.
La Juventus et l'AS Roma peuvent prolonger le beau printemps européen de l'Italie, se qualifiant pour la finale de la Ligue Europa demain jeudi. À l'issue des demi-finales, retour respectivement contre Séville et le Verkusen. Le football italien a déjà rendez-vous à Istanbul le 10 juin pour la finale de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan. Il rêve aussi de faire étape à la Puskás Arena de Budapest le 31 mai, où le trophée de la Ligue Europa attend son propriétaire.
Dans le sud du Maroc, le hockey des nomades menacé de disparition.
Une poignée de passionnés s'efforce de faire vivre le hockey sur sable, une discipline sportive ancestrale des tribus nomades du Sahara qui tend à disparaître. La rencontre est un temps fort du Festival international des nomades, organisé chaque printemps à Mohamed El Rizlan, commune rurale située aux portées du désert, non loin de la frontière algérienne. Cette ère de nomadisme fut longtemps la dernière halte marocaine sur l'ancienne route caravanière de la mythique Tombouctou.
Playoff NBA, pour terminer, les Nuggets gagnent la première manche contre les Lakers.
Les Nuggets, grâce notamment à 34 points de Nikola Jokic, auteur d'un triple-double, ont battu 132-126 les Lakers, passés auprès d'une remontée fantastique lors du premier match de leur finale de conférence Ouest et comptant pour les playoffs de la NBA hier mardi. Denver a longtemps fait cavalier seul, comptant jusqu'à 20 unités d'avance en première période. Puis dans le sillage d'Anthony Davis, auteur de 40 points, de LeBron James, 26 points, Los Angeles a refait surface au point de revenir à 3 longueurs dans les deux dernières minutes, 127-124. Le match numéro 2, Jean-Roger, aura lieu demain jeudi, toujours à Denver. La première équipe à 4 victoires sera qualifiée pour la grande finale.
Page de sport VO Afrique, signé Eric Manirakiza. Le monde.
aujourd'hui VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Plus de la moitié de la population soudanaise a besoin d'aide et de protection, a affirmé aujourd'hui l'ONU, alors que les attaques aériennes et les affrontements se poursuivent à Khartoum entre les deux camps rivaux. Les habitants ont déclaré que l'électricité est coupée, la nourriture est insuffisante et l'eau potable se fait rare. Comment vivre ou survivre dans l'enfer de la guerre? Eric Manirakiza a joint Salah Mohamed El Hassan Osman, un résident de Khartoum, la capitale soudanaise.
D'abord, il y a au Soudan, il y a toujours une solidarité communautaire très forte entre les voisins, les voisines, les jeunes du quartier. Alors, on s'aide, il y a une aide mutuelle, ceux qui ont de l'eau, ceux qui n'ont pas d'eau, et vice-versa. Il y a également des échanges d'intérêts entre les habitants. Il y a aussi l'assistance de familles qui vivent en dehors de Khartoum. Ils nous envoient de l'argent de temps en temps pour couvrir les coûts de vie qui augmentent chaque jour. En général, la plupart de ceux qui sont restés à Khartoum sont obligés d'y rester. Quelques-uns pour garder les biens des familles, parce qu'il y a, des cas de vol et de pillage. Alors, il faut que quelqu'un reste à la maison pour sauvegarder, pour regarder. D'autre part, la nature du travail les oblige à rester à Khartoum. Par exemple, comme moi, si je vis à ma ville natale à 185 km de Khartoum, je ne peux pas envoyer des messages, je ne peux pas faire de rapport sur la situation à Khartoum. Et pour y être parti, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se déplacer, soit pour manque de moyens financiers pour se déplacer, soit pour blocage par des échanges de faux.
Y a-t-il encore des gens dans Khartoum, là où se passent les combats?
Si, il y en a. D'abord, le quartier résidentiel de centre-ville sont maintenant vides. Le marché arabe, le marché principal de Khartoum, est détruit en partie par les raids et les frappes aériennes, et aussi par les accrochages terrestres. Il y a des quartiers qui sont vidés totalement de leurs habitants. Par exemple, le centre-ville, le Khartoum Est, Khartoum Ouest, Khartoum Nord, le Khartoum 2, qu'on appelle Khartoum 2. Et une grande partie du quartier Djabra et Sahaba.
Et en cas de décès, comment faites-vous pour organiser les funérailles?
Ça devient de plus en plus difficile. Maintenant, on est obligé à enterrer les morts dans les cours des maisons familiales. Parce qu'on ne peut pas trouver une voiture pour transporter des cadavres. C'est impossible. Alors, on est obligé de les enterrer dans les cours des maisons de famille, à ce que la situation change. N'oubliez pas de prier pour nous.
Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste et habitant de Khartoum. Des déplacés maliens trouvent l'inspiration dans la résilience, comme en témoigne le parcours de One Close, un réfugié qui a reconstruit sa vie en ouvrant une débiterie à Bamako. Son commerce a prospéré au-delà de toute espérance, malgré les difficultés initiales, après avoir fui les atrocités terroristes à Gao. Un reportage de notre correspondant dans la capitale malienne, Mohamed Danyoko.
À la pharmacie de la santé, celui qui prescrit et sert le remède en même temps n'est autre que le docteur One Close. Assis avec des amis de longue date, les causeries tournent autour de divers sujets, dont celui de la vie dans leur Gao natal. Un Gao que One Close a dû quitter un matin de 2012 pour mettre sa famille à l'abri à Bamako.
En 2012, quand le chauffage était trop, je voulais amener ma famille avec les enfants pour l'éducation et ma mère était diabétique.
Donc c'est comme ça que j'ai amené ma mère, j'ai amené la famille d'abord. Après moi-même, je suis venu avec ma mère, j'ai remis ici, j'ai pris de la maison en location. Après tout, donc un mois, deux mois, je voulais retourner, sinon je ne m'attendais pas vraiment à me retrouver ici. Hein.
Les débuts n'ont pas été faciles pour ce fils de Gao.
C'était Sanogo qui était au pouvoir. Il y a des gens qui m'ont dit non, il ne faut pas laisser les gens quitter ailleurs, venir nous déplacer pour ça. Pourquoi ? Moi, j'ai même regretté. J'ai demandé le bon Dieu entre 11h midi. J'ai tendu ma main au bon Dieu. J'ai dit vraiment, le bon Dieu, ça pour laquelle situation je me suis trouvé aujourd'hui. Vraiment, Dieu n'a qu'à me faire la solution. Au nom de Dieu, ça, je vous dis, Dieu m'entend. Ce n'est pas pour jeter des fleurs à moi. Hein. Le petit soir, Adama Diarra est venu me voir. Il me dit que si tu veux mon salle de suiveur, je vais vous donner, je vais chercher un lien pour que tu puisses t'installer à Bakoudiko. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Adama Diarra, c'est un professeur de suiveur, mais il travaille. Au moins de 72 heures, il a libéré la maison. Il était voir le professeur de la maison, il nous a donné. Ils ont accepté, il a donné l'avance, les questions, et j'ai pris la maison à Bakoudiko.
Aujourd'hui établi, connu et reconnu, One Close doit son succès selon sa nombreuse clientèle à son savoir-faire.
Moi, One Close, je le connais il y a bientôt 10 ans. Je viens ici, je suis un des clients fidèles. Pourtant, je suis là, il y a des moments aussi. Je fais beaucoup de viande pour envoyer en Europe pour mes amis. Et voilà, c'est de la qualité.
Mais au-delà de son savoir-faire, sa fidèle clientèle, qui n'ignore rien de son histoire, reste admiratif devant sa capacité de résilience.
Chaque fois qu'on mange bien, la tête de mouton, on a l'impression qu'on se trouve sur les dunes de sable du nord, de Tombouctou comme de Gao.
Occupé à préparer une commande qui doit quitter Bamako pour la Suisse, Oumar Tandina, malgré son diplôme universitaire, tient de main de maître l'un des points de vente de son père.
Bon, on avait eu des hauts et des bas. Ça a toujours été difficile de changer de zone. Surtout quand on est nouvellement venu à Bamako, c'est pas facile de quitter Gao à Bamako. Bamako, c'est une grande ville. Mais Alhamdoulilah, vu notre façon de travailler, notre maîtrise du travail, on est arrivé à s'imposer.
De retour d'Abidjan, One Close, sur sollicitation de sa clientèle ivoirienne, s'apprête à y retourner pour ouvrir un point de vente à Kumasi. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Protection sociale en Côte d'Ivoire, des acteurs du secteur informel affiliés au fonds d'appui aux femmes bénéficieront bientôt du régime social de travailleurs indépendants de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Une convention de partenariat vient d'être signée pour accroître les activités génératrices de revenus des femmes et leur permettre de préparer leur retraite. Reportage à Abidjan de Delphine Bouise, notre correspondante.
Une signature de partenariat qui vient booster le devenir des femmes à l'accès au régime social des travailleurs indépendants de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et c'est un grand pas franchi pour ces femmes du secteur informel, selon Denis Charles Kwasi, directeur général de la CNPS.
Cet instrument nouveau de sécurité sociale vient répondre efficacement et de façon durable à la question d'une protection sociale pour tous en Côte d'Ivoire.
Serge Pacom Dibi, directeur du projet à la Caisse nationale de prévoyance sociale, explique le contenu du régime social des travailleurs indépendants aux femmes.
Vous, mesdames, qui êtes sur le terrain en tant que femmes commerçantes, artisans et autres, quand vous ne pouvez pas travailler, l'argent que vous avez, on va lui donner un peu à la CNPS, on puisse vous donner une partie. Vous nous avez dit que vous gagnez 30 000 par mois. Sur les 30 000, vous avez une cotisation de 3 600 par mois. On a calculé un peu, ça fait 120 francs par jour. Et avec ça, vous tombez enceinte pendant les 98 jours, ça fait 3 mois et demi, vous aurez 30 000 francs par mois. Donc vous aussi, à 7 mois et demi, vous pourrez aussi prendre des congés de maternité comme vos sœurs qui sont salariées dans le bureau climatisé.
La porte-parole des femmes du FAFSI, Viviane Ngorando, qualifie cette action d'offre salutaire.
Grâce au FAFSI, je vais bénéficier du régime social des travailleurs indépendants. Je sais que je dois faire des cotisations mensuelles pour bénéficier de ces avantages. Et je suis prête à le faire, car c'est une petite contribution qui peut faire une grande différence pour mon avenir.
Présidente fondatrice du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, signataire de ce partenariat, la première dame, Madame Dominique Ouattara, a invité toutes les femmes bénéficiaires du FAFSI à y adhérer pour diverses raisons.
En effet, nos sœurs pourront ainsi continuer d'exercer leurs activités dans la quiétude et la sérénité, en étant protégées contre les risques de perte de leurs revenus en cas de maternité, d'accident, de maladie ou de retraite.
Le FAFSI, c'est près de 300 000 bénéficiaires et ce partenariat avec la CNPS permettra une introduction véritable de la sécurité sociale dans toutes les couches de la société ivoirienne. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h/24.
En pleine crise sur le plafond de la dette, le secrétaire d'État Anthony Blinken, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo ont répondu aux questions des sénateurs hier au Congrès pour expliquer comment la nouvelle demande de budget du président démocrate Joe Biden pourrait, selon eux, façonner la concurrence des États-Unis avec la Chine. Nathalie Barge relate un compte-rendu de la correspondante de la VOA au Pentagone, Carla Babb.
Les sénateurs ont interrogé les trois responsables afin de savoir si le dernier budget de l'administration Biden permettra aux États-Unis de rivaliser avec la Chine ou risque d'entraîner un retard au plan économique, politique et militaire. La sénatrice républicaine Susan Collins a rappelé que la concurrence avec Pékin n'est pas une mince affaire.
La plus grande armée du monde et la plus grande économie du monde en parité de pouvoir d'achat.
Pékin a déclaré vouloir utiliser son pouvoir pour contrôler l'île de Taïwan par la force si nécessaire. 50% du commerce mondial passe par le détroit de Taïwan, qui fabrique plus de 70% des semi-conducteurs mondiaux, la base des ordinateurs et autres appareils électroniques. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a mis en garde sur le danger potentiel de répercussions au-delà de la région.
À la suite d'une action unilatérale prise par la Chine à l'encontre de Taïwan, nous aurions une crise d'économie mondiale sous les bras qui affecterait plusieurs pays les uns après les autres.
Les responsables affirment que les États-Unis restent attachés à Taïwan avec un programme d'aide militaire massif attendu prochainement. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, avertit que si le Congrès ne parvenait pas à adopter un budget à temps, les intérêts américains pourraient en souffrir.
Cela va retarder notre capacité à obtenir ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes et également pour soutenir nos alliés et partenaires.
La secrétaire au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que la capacité des États-Unis à contrer la Chine demandait une présence diplomatique et sur le terrain avec de l'argent. Le sénateur républicain Lindsey Graham a critiqué l'administration pour avoir tenté d'attribuer au Congrès les lacunes des États-Unis vis-à-vis de la Chine.
Cette idée que nous avons une politique chinoise forte est une foutaise. Ce n'est pas le budget qui dissuadera la Chine, c'est notre volonté d'affronter les gens comme la Chine.
Les républicains soutiennent que le budget de Joe Biden n'est pas en mesure de financer de nouveaux navires dont la marine américaine dit avoir besoin pour dissuader la Chine. Il critique également le refus du président de déclarer la Russie comme état parrain du terrorisme pour sa guerre en Ukraine, ce qui, selon les sénateurs des deux familles politiques, enverrait un message fort alors que Pékin envisagerait d'envoyer une aide militaire à Moscou.
Ce sera tout pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro. À la mise en onde, Joselle Maurice. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.